Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, chapitre 15, versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre 15, versets 1 à 8. Puis, je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre anges vivants, des quatre êtres vivants, donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges furent accomplis. Alors, je vais vous asseoir. Alors, vous avez, ceux qui ont les notes, vous voyez que, de quelle façon je l'ai intitulé. Alors, la colère de Dieu... Je pense que le passage parle de trois choses. La colère de Dieu qui est exprimée, la colère de Dieu qui est exaltée, parce qu'elle est d'abord exprimée, puis ensuite, ceux qui l'exaltent, exalter de la colère, ça veut dire... Mais c'est les élus qui trouvent que la colère de Dieu est parfaite parce qu'elle correspond à un jugement que les méchants se doivent d'avoir. Alors, une colère exaltée, imaginez-vous, d'avoir exprimé verset 1, colère de Dieu exaltée, verset 2 à 4, et la colère de Dieu exécutée, verset 5 à 8. Dans les leçons qu'on avait suivies concernant le chapitre 13 et le chapitre 14, on avait vu que c'était deux chapitres qui étaient très intimement liés. Quand tu lis le chapitre 13, ça t'aide à comprendre le chapitre 14. Mais ce que les auteurs, les commentateurs veulent nous faire comprendre, c'est que le chapitre 15 est aussi intimement lié au chapitre 16. Alors, je vais vous lire ce que Herman Oxema, dans « Behold, he cometh, an exposition of the book of Revelation », qu'est-ce qu'il dit comme petite introduction des chapitres 15 et 16? C'est important de réaliser cela parce que quand on les lit et qu'on prend conscience qu'ils sont vraiment liés l'un à l'autre, ça nous aide à comprendre. Alors il dit, dans les chapitres 15 et 16, nous avons une vision des sept coupes de la colère de Dieu répandues sur la terre par les sept anges. Ces deux chapitres vont ensemble. Ils sont liés de telle manière que notre présent chapitre sert d'introduction au chapitre 16, tandis que dans ce dernier, le déversement réel des sept coupes est présenté. Donc, le chapitre 15, il nous présente ce qui va être exécuté dans le chapitre 16. Je vais vous voir la... Alors, les événements et les sept coupes de la colère de Dieu... La question qu'on pourrait se poser, c'est, est-ce que ces choses-là sont appliquées tout au long de l'histoire, depuis la première venue de Christ jusqu'à son retour, ou si c'est quelque chose qui s'applique juste au temps de la fin? Excellente question, parce que si vous allez dans les commentateurs, vous allez vous rendre compte qu'il y en a plusieurs qui disent que les chapitres qu'on est en train d'étudier, c'est des choses qui vont arriver juste un petit peu avant la fin. Alors, c'est en train de dire que les chapitres 15 et 16, ça ne s'est pas appliqué à toutes les époques, de tous les chrétiens de tous les temps, de tous les siècles. Et je pense que c'est important de comprendre. Et alors, ça dit, les événements et les sept coupes de la colère de Dieu se sont-ils appliqués tout au long de l'histoire, depuis la première venue du Christ jusqu'à son retour, ou arriveront-ils uniquement dans les derniers jours, les périodes qui précèdent immédiatement la deuxième venue du Seigneur? Je ne sais pas si vous voyez la question, là. Mais dépendamment de la manière dont vous allez répondre à ça, tout le reste va être transformé. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec l'auteur qui dit que ça s'applique à tous les siècles, mais que ça va être plus particulièrement illustré dans les périodes qui vont... Alors, il y a comme un peu des deux. On peut pas dire, parce que le chapitre 15 et le chapitre 16 parlent de choses qui se sont passées à tous les siècles, mais en même temps, nous parlent d'une période où ça va être particulièrement intense vers la fin. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà acheté, je pense, le petit commentaire de William Hendrickson. C'est un excellent commentaire. Il est court, mais il est excellent quand même. Lui, il répond à cette question-là. Alors, je vous lis ce qu'il dit. C'est important parce que sinon, on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, il dit, une question se pose. Que fait Dieu quand, dans le cours de l'histoire, les hommes restent sourds aux trompettes du jugement, les plaies initiales, et ne se repentent ni ne se convertissent? Laisse-t-il une telle dureté de cœur et une telle impénitence impunie jusqu'au jour du jugement dernier? Retient-il sa colère jusqu'au retour du Christ, jusqu'à la vendange dont parle le chapitre 14? C'est à ces questions que répond la présente vision, réponse qui peut se résumer ainsi. Quand le méchant refuse de se repentir, malgré les premiers signes de la colère de Dieu dans ses jugements, il est frappé par la manifestation définitive, irréversible, quoique encore partielle. Elle ne sera totale qu'au dernier jour. Ces fléaux sont les derniers. Ils ne laissent aux pécheurs aucune possibilité de repentance. Quand celui-ci, plusieurs fois averti par les trompettes du jugement, persiste dans son endurcissement, la mort le jette finalement dans les mains d'un Dieu courroucé. Ainsi, tout au long de l'histoire du monde, cette colère se manifeste tantôt à l'égard de l'un, tantôt à l'égard de l'autre, et s'abat sur l'impénitent. La vision des coupes est, par conséquent, parallèle aux autres visions et couvre toute la dispensation présente. Il répond à la question, ça s'applique-tu dans tous les siècles ou ça s'applique juste à la fin? Lui, il dit que ça s'applique à toute la dispensation présente, donc incluant le siècle actuellement. Quand les gens lisaient l'Apocalypse en 1700, en 1800, en 1900 ou en 1400, ça s'applique tout le temps. Mais voici ce qu'il dit. Après ça, il dit à la page 177, « Car si la vision des coupes s'applique à toute l'ère chrétienne, » et là, il est en train de dire que ça s'applique à toute l'ère chrétienne, tous les siècles, à venir jusqu'à aujourd'hui, elle concerne plus particulièrement le jour du jugement et ce qui le précède immédiatement. Voyez-vous, les dispensationalistes qui font des commentaires sur l'Apocalypse vont dire que ça s'applique uniquement au temps de la fin. Tandis que les réformés vont dire que ça s'est appliqué à tous les siècles, les jugements ont été, il y a eu des coupes de colère de Dieu, mais vers la fin, quand juste la période qui va être avant que le retour du Christ arrive, là, ça va. Il dit, car si la vision des coupes s'applique à toute l'ère chrétienne, elle concerne plus particulièrement le jour du jugement et ce qui le précède immédiatement. Voyez-vous, on se rend compte que ça parle de tous les siècles, que Dieu a jugé les méchants tout au siècle, mais ça parle d'une façon particulière, comme il dit, d'une façon particulière vers la fin. Alors, c'est bien important de saisir ça comme il faut pour interpréter correctement. Sinon, ben, tu es en train de dire que toi, selon les dispensationalistes, l'Église a été enlevée et l'Église ne traverse pas les difficultés qui sont décrites bien souvent dans beaucoup de chapitres de l'Apocalypse. Alors, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On dit que l'Église... En tout cas, on ne rentrera pas dans toutes les questions relatives à l'enlèvement, là, puis tout ça, là. Mais nous, on croit que l'enlèvement correspond avec quand le Seigneur revient. Quand le Seigneur revient, il prend son Église, on l'a vu dans les chapitres précédents, il prend son Église, il l'enlève, et après les jugements, le jugement arrive. Alors, tandis qu'eux, ils disent que l'Église est enlevée, et après, c'est tous les méchants qui vont traverser cette période-là, les difficultés, puis qu'eux, les chrétiens, qui ne traverseront pas ça. C'est très différent. Parce que si quelqu'un ne comprend pas le livre de l'Apocalypse comme il faut, il croit que toutes ces choses-là, ça ne s'applique pas à eux. Ça ne s'applique pas au peuple de Dieu. Ça peut être une erreur très grave. Si ça s'applique au peuple de Dieu, tu es en train de dire que tu ne seras pas prêt parce que tu penses que ce n'est pas toi. Tu vas être enlevé, toi, tu penses ça. Alors, le premier verset, c'est ce qu'on avait dit, la colère de Dieu qui est exprimée. Verset 1. Et je vis dans le ciel un autre prodige. Dans la version que j'ai utilisée, ça se dit prodige. Grand et admirable. Sept anges qui tenaient les sept dernières plaies, c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ordre qu'il y a dans le développement de l'Apocalypse. On parle d'abord des sceaux qui sont brisés, le 7. Après ça, on parle des trompettes. Et après que le Seigneur a fini d'avertir, parce qu'une trompette, le but, c'est d'avertir. Après la trompette, arrivent les jugements, le déversement des coupes. Et on va voir que c'est extrêmement, dans les prochains chapitres, on va voir... Qu'est-ce que le Seigneur va juger? Bien sûr, il va juger le malin. Il va juger l'Église, la fausse Église, la Babylone la Grande, et toutes ces choses-là, et on va voir de quelle façon il va le faire. C'est très intéressant. Alors, plusieurs versions ont traduit le mot grec original par le mot « signe ». Dans certaines versions, c'est le mot « signe » qui est là. Il y a vu un autre grand signe dans le ciel. Mais dans beaucoup de versions, on parle de « prodige ». Alors, j'ai fait une recherche dans le nouveau dictionnaire biblique, révisé et augmenté des éditions Emmaüs. Voici ce qu'il dit sous l'article « signe ». Dans la Bible, le signe se rapporte le plus souvent à un acte accompli par Dieu. Il est porteur d'un message. Les signes sont la plupart du temps des miracles. Le mot est souvent associé à prodige au pluriel et n'indique que la fonction. Fin de l'article. Alors, c'est important de voir le prodige, c'est un acte divin, un acte accompli par Dieu lui-même. Alors, pour ça qu'on dit prodige, certains ont dit signe. Alors, on voit vraiment que cette colère-là, elle est exprimée, qu'on pourrait dire, providentiellement. Il voit dans le ciel un grand prodige. Il est conscient que c'est Dieu lui-même qui agit. Alors, le verset nous précise l'endroit d'où le prodige ou le signe est donné. Dans le ciel. Je vis dans le ciel. Le passage fait également mention d'un autre prodige. Cela signifie que d'autres signes ont été donnés à l'apôtre. Celui de la femme, celui du dragon, au chapitre 12. Alors le Seigneur veut que nous remarquions certaines caractéristiques de ce signe. Deux mots sont utilisés, grand, un prodige, donc un acte de Dieu qui est grand et qui est en même temps que grand, admirable. Dieu veut qu'on sache qu'il est grand et Dieu veut qu'on sache aussi qu'il exprime quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Le signe que le prodige que Dieu va donner va être grandiose et extraordinaire. Et ça va être quelque chose qui va jeter une lumière sur l'histoire à la fois de l'Église et sur l'histoire du monde en général. On parle d'un signe qui est admirable. Le mot admirable, c'est parce qu'aujourd'hui en publicité, on utilise tellement des mots, tu sais, ah, c'est merveilleux. Mais dans le fond, c'est parce qu'on prend des mots qui ont un sens précis et on prend un mot qui souvent ont un sens dans un sens spirituel, puis on applique ça à des produits, à n'importe quoi. Mais les mots, ils ont des sens. Alors, quand on parle d'admirable, on parle de quelque chose qui est merveilleux, qui est étonnant et qui est capable de ravir. Quand on parle de ravissement, là, c'est quand quelqu'un se trouve devant ce prodige-là et devant ce signe-là, ça produit dans son âme. Tu sais, c'est le ravissement, c'est ça. Quand on dit un signe ou un prodige grand et admirable, c'est vraiment dans cette idée-là qu'il faut aller. Et de procurer de la joie. Qui va avoir de la joie quand ces choses-là vont arriver? C'est les chrétiens. Les chrétiens qui sont sur la terre, ils vont voir que le jugement s'en vient et ça va leur procurer de la joie et de l'enthousiasme. C'est sûr que quand on regarde toutes les choses que le Seigneur est en train de préparer, quand on va sentir qu'on est sur le bord, que c'est sur le bord de se réaliser, ça va produire justement grand et admirable. Exprimer prodigieusement. L'idée à remarquer, ça, c'est vraiment les doubles sept. C'est fait par sept anges et qui tiennent les sept dernières plaies. Il coupe de la colère de Dieu. Donc, l'utilisation double du mot « sept », on sait que dans les Écritures, le sept, c'est un chiffre hautement symbolique, très hautement significatif. Puis, il exprime plusieurs choses. Le sept, c'est la perfection. Le signe de Dieu, le prodige que Dieu va voir, c'est quelque chose qui va être parfait. Plénitude, la plénitude, quand on parle de sept, ça veut toujours exprimer que Dieu va exprimer sa colère d'une façon pleine. Il n'y a pas un geste, un péché que les hommes ont fait, qu'un gouvernement a fait, peu importe ce qui va s'être passé. Quand on parle de plénitude, là, le Seigneur n'oubliera rien, comme on dit. C'est plein, comme on dit. Et c'est la complétude absolue. Et c'est l'achèvement ultime et irréversible. Alors, en regardant le texte, ça parle des dernières. Alors, j'avais utilisé le commentaire de Paulin Bédard, qui a fait une étude sur l'Apocalypse, pour savoir, parce qu'il se pose comme question... Pourquoi les sept plaies sont-elles appelées les dernières? Alors voici ce qu'il dit, Paulin Bédard. Il dit l'interprétation futuriste. Qu'est-ce que c'est l'interprétation futuriste? C'est celle qu'on vient parler tantôt, dispensationaliste. Croit que les événements annoncés par les sept coupes viendront à la fin de l'histoire, après les événements annoncés par les sept sceaux et les sept trompettes. Nous avons toutefois déjà vu, que l'Apocalypse ne présente pas des événements dans un ordre chronologique linéaire, mais se développe sous forme cyclique et répétitive. Ça, c'est très important de saisir ça, parce que quand on lit l'Apocalypse, on voit les sceaux, on voit les trompettes et on voit les coupes de la colère de Dieu. On est porté à penser que ça se déroule dans un ordre chronologique. Après une affaire, arrive l'autre. Après une affaire, arrive l'autre. Après une affaire, arrive l'autre. Lui, il dit que c'est plutôt, au lieu d'être dans un ordre chronologique linéaire, mais il dit que ça se développe sous forme cyclique et répétitive. Autrement dit, tout au cours des siècles, il y a toujours eu les sceaux, il y a toujours eu les avertissements, les trompettes, puis il y a toujours eu des jugements aussi. Alors, c'est cyclique, ça revient. Et ce qui a été expliqué dans d'autres passages nous est réexpliqué, mais en amplifiant. Quand on parle de cyclique et répétitif, c'est vraiment ça. Parce que si tu les vois dans un ordre chronologique, tu dis, ah, ben OK, les sceaux sont finis, maintenant les trompettes sont finies, et là on est rendu, on voit une chronologie dans le temps. Et lui, il croit que c'est une erreur, et je le crois aussi. Il dit, elles sont les dernières, non pas parce que la fin arrivera avec elles, mais possiblement parce que c'est la dernière série de visions reçue par Jean qui annonce des jugements. Jean a reçu les visions des sept sceaux, puis des sept trompettes, et maintenant des sept plaies représentées par les sept coupes. Les visions précédentes avaient déjà révélé comment la colère de Dieu se manifestait tout au long de l'histoire et comment elle se manifestera à la toute fin. C'est important de voir aussi l'autre partie du verset qui dit, car c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Les saintes Écritures sont très riches quant à l'utilisation des plaies pour punir les hommes de leurs péchés. Nous savons que Dieu accomplit toujours ses prophéties. Deuxième point qu'on va regarder, c'est vraiment la colère de Dieu qui est exaltée. Parce que normalement, quand tu te mets en colère, ça ne fait pas applaudir personne. N'est-ce pas? Quand on se met en colère, souvent, on fait des folies, on fait des choses qu'on regrette après. Mais ici, Dieu est en train de dire qu'il va juger les hommes, les coupes de la colère de Dieu, et les saints, ils se réjouissent de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été témoins de l'ensemble de tous les péchés que les hommes ont commis, les injustices, les exploitations, les souffrances qu'ils ont imposées au peuple de Dieu et aux hommes en général. Ils ont été témoins de ça, et là, ils voient que Dieu est en train d'amener le jugement. N'est-ce pas des fois qu'on voit des choses qui se passent sur la terre et on se dit, j'espère que Dieu va juger ces hommes-là. Tu sais, et quand ça va arriver, ben il y en a qui vont être contents. Pas du malheur des autres. Enfin, la justice va s'exécuter. Alors, versets 2 à 4, on les relit. Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le nom de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, et ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, Tes œuvres sont grandes et admirables au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des saints. Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom, car tu es le seul saint. Aussi, toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face, parce que tes jugements ont été manifestés. Le mot manifesté, là, les jugements de Dieu, manifesté, ça veut dire frapper de la main. Ça veut dire rendu visible, rendu perceptible, rendu observable par tout le monde. Tes jugements ont été manifestés. Les gens vont voir quel jugement Dieu a fait par rapport à tel et tel péché et les saints vont s'en réjouir. Lorsque la colère de Dieu s'exprime, elle provoque deux principales réactions, celle du peuple de Dieu et celle des pécheurs impénitents. Nous constatons ici que le peuple de Dieu jubile, se réjouit vivement, et il l'exprime avec de la musique, des chants et des louanges. Bizarre pareil, hein? On parle de colère, puis les saints ils vont être contents, puis ils vont jubiler, puis ils vont chanter. Puis ils vont dire à Dieu, tout ce que tu fais, c'est parfait, c'est... Bon, la colère qui provoque la joie. C'est rare qu'on voit ça, là. Les élus désirent ardemment que toutes les nations reconnaissent la sainteté absolue de Dieu, la gloire de son nom et de ses œuvres et de ses voies. Les croyants qui sont déjà dans la présence du Seigneur veulent que tous les hommes expriment de la crainte et de l'adoration authentique parce que les jugements de Dieu ont été rendus manifestes. Autrement dit, un jugement qui est manifeste, un jugement perceptible et observable de tous. Il n'y a pas un qui le verra pas. Et ils vont être contents, pourquoi? Parce qu'eux sont déjà au ciel. Et ils ont la victoire. Mais ils ont la victoire, on sait qu'ils l'ont eue, pas par leur propre courage, ni par leur propre force. Ils l'ont par la grâce de Dieu. Si jamais on est dans les temps de la fin, comme il y en a plusieurs qui pensent, là, qu'on est dedans, là, on va vivre des moments extrêmement lourds, extrêmement difficiles à vivre. Mais c'est pas parce qu'on est fort qu'on va pouvoir passer à travers. On va passer à travers parce qu'on va avoir reçu la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des choses que, si on serait laissé, si Dieu nous laissait aller à notre propre misère, on abandonnerait toute la gang. C'est la grâce de Dieu, un peu comme les chrétiens du premier siècle, quand tu disais à un chrétien, « Ou ben non, tu vas aller mettre ton petit grain d'encens devant un autel, puis tu vas adorer l'empereur, ou on t'envoie dans l'encens, tu vas te faire manger par les bêtes, puis tu vas te faire, on va t'enduire de pitch, puis on va te mettre le feu après. » Selon vous autres, là, nous autres, là, notre petite église, là, si on arrivait dans des conditions semblables, là, on passerait à travers. Bien, la réponse que je serais porté à dire, c'est qu'on ne serait pas capable de passer à travers naturellement. J'ai entendu souvent des chrétiens dire, « Oh ben là, moi, s'il faudrait qu'une affaire de même arrive, puis moi, je pense que je ne serais pas capable de passer à travers. » Bien, tu as raison de dire que tu ne serais pas capable, parce que tu ne seras pas capable. Qu'est-ce qui va permettre que tu puisses traverser la difficulté énorme? C'est pas une petite difficulté, là. C'est une affaire énorme. Qu'est-ce qui va permettre que tu vas être capable de le traverser? La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui va permettre que tu puisses le traverser. Alors, c'est des gens qui vont avoir traversé toute la question de la bête, là, parce qu'on a parlé qu'il y avait deux aspects de la bête. Il y a la bête politique. Et il y a la bête religieuse. Les deux travaillent conjointement pour perdre l'humanité. Alors, ceux qui vont avoir vécu ça, puis plus ça va s'intensifier, là, on pense qu'on connaît ça, nous autres, là, être persécutés. On pense qu'on connaît ça. Oh, au Québec, dit qu'on a été persécutés, ils ont viré un char à l'envers. Allô? Allô, persécution, quand tu lis vraiment un peu l'histoire de l'Église dans le passé, combien certaines personnes ont souffert en prison, martyrisées, puis des fois, pendant des années et des années, on connaît pas ça. On connaît pas ça, la misère, comme on dit. Si Dieu permettait que les méchants prennent le pouvoir, le contrôle, et qu'ils commencent à serrer la vis à l'Église, de plus en plus, de plus en plus, où tu t'étais, où on te fait ça. Et là qu'on verrait si on est capable de désobéir aux hommes pour obéir à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, des fois il y a des conséquences, puis les conséquences sont très graves, des fois. Ça peut aller jusqu'à ta mort. Ça peut aller beaucoup de souffrance, l'emprisonnement, plein de choses qu'ils ont faites historiquement. Ça vaut la peine de lire l'histoire de l'Église, parce qu'il y a beaucoup de choses, on apprend énormément de choses. Alors, ça dit qu'ils sont sur une mer de verre mêlée de feu, et c'est vraiment l'expression qu'ils sont victorieux. La mer de verre, ça fait référence fort probablement à la transparence de la justice divine. C'est un mot qui était à moi à ce temps-là, la transparence. Les politiciens se gargarisent avec ça. On est transparent. Ouais, ah oui, on ne savait pas, on n'avait pas remarqué. La transparence. Mais quand on parle des choses de Dieu, là, c'est vrai que c'est transparent. Les choses de Dieu sont toujours parfaitement transparentes. Quand on parle de mêlée de feu, le feu, dans les Écritures, ça symbolise fréquemment la présence du Seigneur qui délivre, éclaire, purifie ou consume. Le feu est aussi un symbole du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Le feu figure, enfin, souvent parmi les expressions relatives au jugement de Dieu. Alors, ils sont sur une mer, et ça dit, de verre et mêlé de feu. Et là, il nous dit, c'est qui ces personnes-là qui ont été victorieux de la bête, les deux bêtes? Ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom. C'est les vainqueurs. Le Seigneur permet qu'ils voient que le jugement s'en vient, mais ils voient que ceux qui ont traversé les périodes extrêmement difficiles ou qui sont rendus, puis ils ont passé à travers, comme on dit. Tu sais, des fois, on dit, on parle de la vie. « Ah, ben là, je suis rendu à tel âge, j'ai passé à travers bien des affaires. » C'est vrai qu'on a passé à travers bien des affaires. Plus on a vieilli, plus on se rend compte qu'on a passé à travers bien des affaires. Mais la vie chrétienne, c'est ça aussi. Là. Il y en a qui font un an, deux ans, puis abandonnent, on ne les revoit plus. Il y en a qui font 10 ans, puis abandonnent, puis on ne les revoit plus. Persévérer, ça veut dire que tu vas te rendre jusqu'à la fin. Tu te rends jusqu'à la fin si tu penses que tu es plus courageux qu'un autre, tu es plus lucide qu'un autre, tu es plus sain qu'un autre, peut-être. Mais en général, tu es plus parce que Dieu t'a protégé, Dieu t'a donné du courage au moment que tu en avais besoin. Donc vraiment, l'identité est claire, l'identité, c'est les vainqueurs, ceux qui ont traversé toute cette période-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'assurance des victorieux. Ils ne se tiennent pas assis, ni couchés. Tu sais, quand on dit « J'espère qu'il va se tenir debout devant lui » ou « J'espère qu'il va se tenir debout devant elle », se tenir debout, sont debout, c'est un signe qu'ils ont passé à travers et ils sont victorieux. Et la chose intéressante aussi, puis je n'avais pas vraiment remarqué quand tu lis le texte, on parle « ayant les harpes de Dieu ». C'est Dieu qui leur donne les harpes. C'est Dieu qui leur donne la capacité de comprendre la musique, de l'exprimer. Les harpes de Dieu. Alors, c'est intéressant. Deuxième point, vraiment, dans ce point-là, c'est l'exaltation de la colère de Dieu qui se fait avec trois choses que je vois dans le texte. L'allégresse, parce qu'ils chantent deux chants. Le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Et l'autre mot que je vois qui exprime l'idée, je l'appelle christocentrisme. Autant dans le cantique de Moïse que dans le cantique de l'agneau, il y a une personne là-dedans qui est centrale, c'est la personne de Jésus-Christ. Et l'adoration aussi, parce que ça dit, « Et il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. » Je pense qu'on n'a pas besoin d'être bien, bien intelligent pour savoir le cantique de l'agneau. On parle de qui, là? L'agneau, on sait, si on parle de Jésus-Christ. En disant, ils chantent, puis ils disent, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, ô Roi des Saints. » C'est vraiment la prise de conscience collective de leur rédemption qui leur provoque une joie vraiment débordante. L'allégresse, ils chantaient. Alors, bien entendu, c'est tous les gens, parce qu'il y en a là-dedans, c'était probablement des saints de l'Ancien Testament, puis il y a des saints du Nouveau Testament. Ceux de l'Ancien Testament, c'est plus ceux qui ont sorti du désert, qui n'ont pas sorti du désert, mais sorti de l'Égypte, et que le Seigneur a permis qu'ils arrivent devant la mer. Et le Seigneur a permis, ouvert la mer, le peuple a pu passer à pied. Imaginez-vous, on parle de 600 000 personnes, on ne parle pas d'un petit groupe de 10, 15, là. 600 000 personnes. La quantité de puissance qui était nécessaire pour faire ça, c'est extraordinaire, là. Et c'était vraiment symbolique. Moi, ce que j'aime de l'Ancien Testament, c'est que si tu regardes l'Ancien Testament, ça parle toujours de Christ de façon symbolique. On sort de l'Égypte. L'Égypte, pour d'où, c'est quoi?
C'est le monde.
C'est le monde. Et qu'on va arriver, à un moment donné, on va avoir de la misère. C'est qui rouvre le chemin? Un chemin que, normalement, on ne sera pas capable de passer à travers la mer. On ne passera pas à travers. Il rouvre le chemin, il passe à travers. Bien sûr, ça parle de Christ d'une façon symbolique. Quand il dit que ces gens-là chantaient le cantique de Moïse, quand est-ce que ces gens-là ils ont chanté? Quand ils ont traversé, là, puis que après ça, que ça sert, les Égyptiens les poursuivaient, ils ont été noyés toute la gang, mais ils ont chanté quand?
Après.
Quand tu lis le livre de l'Exode, ils ont chanté après qu'ils ont eu passé. C'est vraiment symbolique, un peu comme nous, on sort du monde. Le Seigneur nous fait traverser la mer du monde avec toutes ses difficultés pour arriver à la fin qui est le ciel. C'est vraiment une image qui nous parle carrément de Christ. Alors, c'est vraiment le double cantique de la délivrance du péché et du malin. On a le cantique de Moïse dans l'Ancien Testament. C'est le chant qu'a entonné le peuple de Dieu après que Moïse lui fait miraculeusement traverser la mer Rouge. C'était un chant qui célébrait le fait que l'Éternel lui-même avait combattu contre les Égyptiens et les avait précipités au milieu de la mer. Le peuple de Dieu exprimait sa joie et sa reconnaissance au Seigneur de sa délivrance. C'était bien sûr une préfiguration de l'œuvre future de Christ qui délivrerait les pécheurs du royaume des ténèbres pour les conduire dans la terre promise. Toute cette merveilleuse histoire nous est révélée dans les chapitres 14 et 15 du livre de l'Exode. Et le cantique de Moïse se trouve dans le chapitre 15. Voyez-vous que je vous disais d'abord l'événement, puis après ça a été terminé. Dans le chapitre 15, vous avez le fameux cantique de Moïse. Le peuple s'est exprimé, a voulu de dire merci au Seigneur pour leur délivrance. Donc, il chante deux chants. Le cantique de Moïse, c'est un chant qui parle de Christ d'une façon préfigurative. Puis il y a le cantique de l'agneau. Ben là, l'agneau, on sait dans le Nouveau Testament, il est clairement identifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On parle de Jésus-Christ. Alors, nous n'avons aucune difficulté à comprendre la signification du mot agneau. Il parle de la glorieuse personne du Sauveur, Jésus-Christ. Les deux chants parlent en fait de la même libération par Christ, mais simplement dans une perspective différente. Un, dans la perspective de l'Ancien Testament, eux, ils croyaient au Christ à venir, tandis que le Nouveau Testament, on croit au Christ venu. Dans le fond, c'est la même personne, mais dans une perspective différente. Et il y a aussi toute l'idée de l'adoration. Le chant du peuple célèbre la réalité de leur libération et de leur délivrance. Les paroles du chant sont remplies de louanges, de triomphes et de jubilation sur la personne et sur l'œuvre du Seigneur. Parce que là, le peuple de Dieu, en ayant vu les deux, ils disent « Tes œuvres sont grandes et admirables au Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Voyez-vous, il remarque le côté des œuvres de Dieu, puis il remarque aussi que pour faire ces choses-là, ça prenait la toute-puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Et aussi que toutes ces voies sont caractérisées par la justice et la vérité. Je pense que quand tu dis tes œuvres sont grandes et admirables, des fois quand tu veux résumer avec trois mots l'œuvre du Seigneur, il y a trois mots possibles. La création, la providence, puis la rédemption. Pour chacun des trois mots, tu pourras passer des siècles à en parler. Puis j'exagère même pas, là. Parce que si quelqu'un croit qu'il comprend ce que c'est l'œuvre de la création, à partir du néant, une personne parle et tout l'univers qu'on a actuellement, qu'on voit autour de nous, vient... C'est... Quand on dit tes œuvres sont grandes et admirables, juste celles de la création, on pourrait en parler, je vous le dis, pendant des... on pourrait en parler pendant toute l'éternité. C'est tellement complexe, les hommes étudient l'histoire, étudient la création depuis le début, dans tous les domaines... anatomie, physiologie, biologie, physique, name it, comme ils disent. Pensez-vous qu'on a compris, là? Comment ça marche, cette histoire-là? Ça fait plusieurs milliers d'années que les hommes étudient ça, puis ils n'ont pas encore compris. Fait imaginez-vous quand on dit tes œuvres sont grandes et admirables, même nous, rendus au 21e siècle, on est capable de dire... Parce qu'on va trop vite des fois. La création, c'est tellement gros, là. C'est tellement grand, là. C'est tellement complexe, là. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. On est loin d'avoir tout compris. On n'aura jamais finalement tout compris. Mais quand les saints disent « Tes œuvres sont grandes et admirables », et si tu prendrais juste la création, tu n'aurais de plein, 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 plein. Après ça, on parle de la providence. La providence, c'est l'ensemble des circonstances que le Seigneur permet qui arrivent depuis le début aller jusqu'à la fin. C'est ça, la providence, c'est le déroulement des décrets divins, des décisions divines sur toute chose, y compris le déplacement d'une fourmi. Quand tu parles de la providence, c'est tellement large, tellement gros. Dieu a tout prévu ça. Quand on dit tes œuvres sont grandes et admirables, juste à penser... après ça, on va prendre la rédemption. Juste à penser comment le Seigneur est venu te chercher, toi. Moi, je t'ai vraiment parti pour un bandit. Sérieux, quand je dis ça. Là. J'aurais pu finir mes jours en prison, puis j'ai pas de misère à le dire. Je suis sincère, je dis ça. J'aurais pu. Il vient te chercher, mais les circonstances. Comment le Seigneur a tricoté ma vie pour pas que j'aboutisse là. Puis, à quel âge qu'il l'a fait, par quels moyens, tout ça, là. C'est... Puis, on pourra prendre tout individu qui a reçu le... Et non seulement c'est bon, la providence, pour la vie des chrétiens. Comment le Seigneur est venu nous chercher? La providence, c'est pas juste comment il est venu te chercher, c'est comment il t'a fait grandir, comment il t'a protégé, comment il t'a fait... Il t'a éduqué... La providence, ça comprend tout ça. Là. C'est énorme quand on dit quand tes œuvres sont grandes et admirables et tes voies justes. Ils sont en admiration. Quand on parle du prodige, il faut comprendre, il faut s'arrêter. Puis, ces gens-là comprenaient ce qui se passait. Ils comprenaient, puis ils étaient en pavoison, on pourrait dire, devant les œuvres du Seigneur. Quand on parle de la domination royale sur ses élus, sur les nations, parce qu'il dit « Ô roi des saints ». Quand on dit « Ô roi des saints », il y a certaines versions qui vont dire « Ô roi des nations ». Là, je ne veux pas embarquer dans les histoires de traducteurs, puis de c'est complexe. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais moi, je pense que c'est les deux. « Ô roi des saints », puis « Ô roi des nations ». Le Seigneur est autant roi de l'ensemble de tous les élus du monde entier, de toutes les églises du monde, que... de toutes les nations. OK, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera cela la semaine prochaine.